Et je vous souhaite la bienvenue à tous. Et donc ce soir, le cours va porter sur le chapitre 8. On va parler des amplificateurs opérationnels et des circuits logiques. Juste pour information, c'est le dernier chapitre sur les ce que j'ai appelé les composants actifs, puisque après, à partir de la semaine prochaine, on va commencer à rentrer dans la partie radioélectricité qui peut-être est la plus intéressante, mais finalement celle où il y a le moins de questions. C'est un peu dommage pour ça. Il y a beaucoup de questions sur les synoptiques, mais c'est à peu près tout, et le reste est assez pauvre. Voilà. Donc, on reviendra dessus au fur et à mesure. Donc là, dernier cours sur les composants actifs. Et on va voir des composants actifs un peu particuliers, qui sont en fait des transistors, hein, mais des transistors un peu plus... des circuits ou qui sont des circuits intégrés que l'on n'a pas encore vu. Alors, je vais commencer par vous présenter ce que c'est qu'un circuit intégré. Alors, là en l'occurrence, ce que je vais vous présenter, c'est pas des ampli-ops, mais un ampli-op, ça se présente sous cette forme-là. Qu'est-ce qu'un circuit intégré ? Ce sont des circuits où sur la puce on a non seulement plusieurs transistors mais peut-être aussi d'autres composants comme des résistances et parfois même des condensateurs. Alors de très petites valeurs, c'est vrai, mais voilà. Et donc tout est miniaturisé sur ce qu'on appelle une puce. D'accord ? Donc la puce, elle est là, je vais vous la montrer tout à l'heure à la webcam, et le composant, il est là. Alors, ce sont des composants, ce qu'on appelle des dual inline, c'est-à-dire que vous avez deux rangées ici de contacts, hein, de broches, qui sont symétriques, hein, dual inline, hein, donc en anglais, il y en a deux, et c'est en ligne, voilà. Voilà, donc, et dans, évidemment, chaque patte, là, elle est reliée à l'intérieur à ma puce, et donc, voilà, ça connecte, et ça a une fonction particulière, et cette fonction, ben, c'est écrit, évidemment, alors, l'ensemble est après noyé ici dans de la résine, les pattes, elles sont recourbées, je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Et donc, quand on regarde sur le dessus, puisque évidemment mon composant, je peux le prendre dans un sens ou dans l'autre, donc j'ai un détrompeur. Les détrompeurs, c'est généralement ici une encoche du côté où il y a la patte 1. La patte 1, elle est toujours ici. Ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la numérotation des pattes, et à la place de l'encoche, on peut aussi avoir un point en couleur ou juste gravé dans la résine en face ou à côté du 1. Et évidemment, la numérotation des pattes, elle n'est pas inscrite sur la résine, mais vous allez avoir en règle générale la référence du composant pour savoir ce que c'est. Alors, attention! Quelquefois, alors ça c'est les fabricants qui demandent aux constructeurs, aux fabricants de composants, de ne pas marquer la référence standard, mais de mettre leur référence à eux. Si bien que vous allez avoir un composant, vous ne saurez pas ce que c'est. Donc pour le réparer, ça va être compliqué. Voilà, donc... ça, c'est les astuces pour ne pas faire réparer le matériel, ou tout au moins, si on veut le faire réparer, il faut passer par le constructeur. Voilà, on va revenir sur les ampli-op qui sont des circuits intégrés particuliers. On va revenir dessus. Pour le moment, je vais passer à la webcam. mes composants que j'ai, ma webcam qui est là. Alors, qui est là, qui est là. Voilà. Donc, je vais commencer par vous montrer, celui-là, on le voit bien. Ah, je l'agrandis aussi. Donc là, on voit bien. Hop, 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 hop. Ouais. Alors, ce que j'ai là, j'aurais dû vous le montrer, je vous le montrais tout à l'heure en ensemble, c'est une plaque avec des composants qui sont noyés dans de la résine translucide, mais c'est une très vieille résine et qui a quelques craquelures dessus, si bien que c'est peut-être pas très net. Vous voyez quelquefois des reflets, en fait c'est les craquelures qui font ça, et puis mon éclairage qui fait que c'est pas très très net. Ce que l'on voit en revanche, alors j'ai pas pris mon crayon, donc je lâche ma webcam, ça risque de merder, non ça va, si, ça merde, comme il était prévu. Donc si vous voyez, alors c'est très très petit, hein, là, ici, donc vous voyez ici, là c'est la puce, et vous avez la puce qui est reliée ici à différentes pattes. Et donc après les pattes, elles partent de chaque côté là. Et une fois que la puce elle est bien connectée au milieu, tout à l'heure j'ai d'autres photos que j'ai récupérées sur internet qui sont plus lisibles, c'est noyé en tout après dans de la résine. Les bouts ici sont coupés et les pattes repliées. Et ça donne ce composant qui est ici. Voilà. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est la vue du dessus ou du dessous. Aucune idée. En tout cas, c'est le côté où il y a la puce. Donc, je suppose, mais sans en être certain, que c'est la partie dessous. En fait, après, c'est replié. Mais voilà, je vous dis ça sans en être certain. J'ai un autre composant, je ne sais pas si c'est plus... Voilà. Il est plus petit, donc la puce est plus petite. Il n'y a évidemment ici que 6 pattes. Hein, il y en a 3 de chaque côté. Il n'y a que 6 pattes. Alors, je ne sais pas ce que c'est, hein, peu importe. C'est pas grave. Et puis ici, on a encore un autre ici qui est moins, c'est moins flagrant. Voilà. Et enfin, encore un ici. Voilà. Mais celui-là, il est déjà terminé, hein, puisque il a sa résine dessus. Et voilà, deux autres avec leur résine. Voilà. Donc vous en avez comme ça en résine comme cela. Et vous en avez aussi qui sont montés un petit peu comme des transistors, mais avec, ici, on a donc 6 pattes, là. Hein, donc, c'est un boîtier TO3. Ah oui, pour la numérotation des pattes, oui, c'est toujours quand on regarde sur le dessus, là. Puisque c'est sur le dessus qu'on va pouvoir avoir la référence, puisque c'est ça qui va être sur le circuit imprimé. Voilà, donc c'est mes petits composants, juste et qui peut-être plus lisible. Ça, ce sont des transistors, donc c'est le même système, mais avec des transistors. Alors, j'étais un peu loin là, voilà, des transistors. Et ici, vous avez les transistors, voilà. Alors ça, qui est donc, encore une fois, avant la découpe, donc ça doit être, je suppose, un MOSFET, sans en être certain. Ça doit être un MOSFET. Et ici, un autre MOSFET, mais là, on a découpé la partie métallique autour. Je suppose que là, il doit être retourné dans l'autre sens. Je suppose. Et c'est ça, après, qui est noyé dans de la résine. Voilà. Je vais repasser sur mon PDF. Donc on en arrive à mes amplis op, qui sont encore une fois un circuit intégré bien spécifique. Il y en a une foultitude hein, de circuits intégrés, et évidemment les plus connus maintenant ce sont les microprocesseurs ou les microcontrôleurs, où j'ai un nombre très 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 important de transistors qui sont intégrés dans ma puce. Là, sur un ampli op, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un peu, mais pas tant que ça. Mais par contre, on ne le voit pas à l'œil nu. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite, c'est impossible de le voir à l'œil nu. Donc, un ampli op, c'est quoi? C'est un composant. Alors, c'est assez bestial comme truc. Assez bestial. Déjà, il y a une alimentation. Donc, il y a une patte que l'on met au moins, une patte que l'on met au plus pour alimenter le système. Et on a ici deux entrées, une entrée négative, une entrée positive, et une sortie. Le système, il est simple. Si, alors premièrement, il n'y a aucune intensité qui rentre dans l'ampli op. Aucune intensité. Donc, dans quelle que soit l'entrée, hein, que ce soit l'entrée positive ou l'entrée négative. Ce qui veut dire qu'on a une impédance infinie en entrée. Pourquoi ? Puisque l'impédance, c'est donc le rapport tension divisé par l'intensité. Si l'intensité, c'est zéro, eh ben, mon impédance, elle est infinie. Hein, n'importe quel chiffre divisé par zéro, ça va donner l'infini. Alors, quand on dans la vraie vie, c'est plutôt du... au moins de l'ordre de 10 millions d'ohms d'impédance. Donc, c'est quand même, on a toujours un petit peu d'intensité, mais c'est très, très, très important. Et le principe, c'est quoi? C'est que dès que la tension sur l'entrée négative est inférieure à l'entrée positive, donc quand c'est vrai, c'est-à-dire que lorsque la tension sur l'entrée négative est bien inférieure à l'entrée positive, donc quand c'est vrai, eh bien ici, ma sortie, elle est connectée au plus de l'alimentation. Et dans le cas inverse, eh bien, elle est reliée ici à l'alimentation négative ou au zéro. Tout simplement. C'est pour ça qu'on appelle ça un amplificateur opérationnel. Ça fait une opération logique. L'opération logique, c'est est-ce que ma tension sur l'entrée négative est ou pas inférieure à la tension sur mon entrée positive. Voilà. Et selon que c'est vrai ou faux, eh ben ça connecte au plus ou au moins. Tout simplement. Cherchez pas à faire quelque chose de plus compliqué, ça fonctionne comme ça. Alors à l'intérieur, là j'ai mis comme si c'était un relais qui collait d'un côté ou de l'autre, c'est un peu plus compliqué, un peu plus souple, mais l'idée, on pourrait imaginer que ça fonctionne de cette manière-là. Et tout au moins, on a l'impression que ça fonctionne de cette manière-là. Hein, quand on fait autour, quand on mesure au voltmètre, eh bien, à partir du moment où on bascule, et c'est vraiment à quelques millivolts, voire microvolts, hein, quand on bascule de l'autre côté, ça, enfin, quand la tension ici positive devient négative par rapport à mon entrée négative, eh bien ça bascule du côté négatif, et inversement, quand je passe dans l'autre sens. Hein, donc c'est quelque chose qui va être finalement assez instable. Enfin, du moins on se dit, mais à quoi ça va servir ce truc-là? Eh bien, ça va servir, on va voir le montage, c'est très, très, très compliqué, mais, enfin, très compliqué, non. C'est une application de la loi d'Ohm, mais c'est un système qui, par nature, n'est pas stabilisé. C'est un système qui est toujours en mouvement et toujours à chercher à retrouver l'équilibre. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que comme ici, mon courant, en théorie, l'intensité enfin, j'ai une impédance qui est très faible en sortie. Puisque, ce que je vous disais tout à l'heure, soit la sortie, elle est connectée soit au plus, soit au moins. Donc, imaginons qu'on ait un relais, ça va coller d'un côté ou de l'autre, ça va faire un peu la même chose, si bien que l'impédance de sortie, elle est faible. Alors, comme c'est pas un vrai relais, évidemment, il va y avoir une impédance, mais elle va être très faible, de l'ordre de la maximum, 4-5 ohms maximum. Dans, évidemment, si le circuit il est dans les limites normales de fonctionnement du circuit, évidemment. Hein. Et puis, du coup, la tension en sortie, elle va être infinie, puisque il y a une très faible différence ici qui va permettre de basculer d'un côté ou de l'autre, si bien que en termes de gain en tension, il est infini, puisque c'est vraiment le petit décalage qui fait que ça bascule soit vers le plus, soit vers le moins. Et donc, d'un point de vue mathématique, on dit que c'est la tension sur l'entrée positive moins la tension sur l'entrée négative multipliée par l'infini. Évidemment, ce n'est pas multiplié par l'infini puisque ma tension ici, elle est limitée à la tension d'alimentation de mon circuit. Hein, je ne sais pas faire autrement. Donc, mais ça, c'est la formule, je dirais, générale. Et quand on applique ça au circuit, on est limité finalement à la tension d'alimentation du circuit. La datasheet que je vous présente quand même, ce que c'est. Alors, je vous avais présenté les datasheets des transistors. Je vais vous présenter la datasheet d'un ampli-op. Donc, typiquement, l'ampli-op le plus répandu, le plus connu, c'est le 741, où il y a pas mal de ce qu'ils appellent des packages. Donc, il y a un package où on a 14 pattes, un package où on en a 8, et un package où on en a 10. Alors, quand on regarde, il y a des pattes qui sont connectées. Donc on a l'alimentation ici, VCC+, VCC-, tout va bien. On a entrée positive, entrée négative, donc IN+, IN-. Et puis, out, il est où? Out, le blanc. Et vous avez deux autres pattes qui sont les offsets dont on va parler tout à l'heure. Donc le offset supérieur, N2, et le offset inférieur, N1. Voilà. Et donc à chaque fois, pour tous les circuits, en fait, il y a besoin de 8 pattes pour un ampli-op. Il y a besoin de 8 pattes. Donc on peut utiliser celui-là, il y a besoin de 7 pattes, pardon. On peut utiliser celui-là, il y en a une qui n'est pas connectée, la numéro 8, alors que dans celui à 14 pattes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un mal puisqu'il y a 7 pattes qui sont utilisées uniquement. Donc voilà le 741, comme il est. Et donc ce que je vais vous présenter tout à l'heure, c'est un 741 avec 8 pattes. Et vous avez aussi des 741 dans des boîtiers TO3, donc les boîtiers ronds, où vous aurez 8 petits fils qui sortent du circuit, du TO3 du boîtier. Vous en avez aussi qui sont sous forme carrée, comme ça. Alors, juste pour information, ici, là, l'écart entre les pattes, c'est exactement 1/10 de pouce. Voilà. Donc ça permet comme ça de voilà, de faire en sorte que tout ça, ce soit des valeurs normalisées et donc plus facilement comment dire, traçables avec n'importe quel logiciel. Ils ont tous la même forme et les mêmes espacements. Ici, vous avez le symbole. Alors, le symbole, ici, on n'a pas les alimentations. Donc, il y a un plus et un moins d'alimentation qui ne sont pas ici. Mais par contre, il y a des tensions d'offset dont on va parler tout à l'heure. Donc ici, bah, vous avez comme pour les transistors, les différentes températures. Voilà, ils fonctionnent à différentes températures. Là, ce sont les différents types, donc avec les différentes références. Ici, ça c'est très intéressant, c'est le schéma à l'intérieur de l'ampli-op. Donc vous voyez, il y a des transistors, mais il y a aussi des résistances, des condensateurs, des diodes. Évidemment, ce qu'il y a le plus, ce sont évidemment les transistors. Mais vous avez tous ces composants. En tout, ce que vous dit la doc, vous avez 22, encore ça qui me gêne, vous avez 22 transistors, ondes résistance, une diode et un condensateur qui est ici. Et donc ici, vous avez les différentes pattes qui vont être utilisées et connectées aux différentes pattes de l'ampli-op. Un autre truc qui est très important, alors ça, c'est ce qui vous donne donc les connexions aux pattes, ici. Et donc ici, vous avez la... c'est pas le schéma, là, c'est vraiment comment est dessinée la puce. Donc ici, on a tous les transistors, toutes les résistances, et diodes, etc. Alors, ne me demandez pas où c'est. Enfin, en tout cas, ça, vous avez ici les points où sont reliées les différentes pattes. Voilà. Et donc ça, c'est un circuit Texas Instruments qui a été créé en 1987. Voilà, et puis après, là, vous avez toutes les caractéristiques avec les tensions à ne pas dépasser, etc., etc., les températures, etc., etc., et quelque part, je crois qu'il y a les impédances aussi, je ne sais plus où, voilà. Ça va être là-dedans, où on a aussi les impédances, je ne sais plus où. Voilà. Donc, vous avez tout les caractéristiques et il y en a. Voilà, donc on passe et ici vous avez à la fin une proposition des différents montages qu'on peut utiliser avec l'ampli-op et les courbes caractéristiques, encore des courbes, toujours des courbes et voilà. Ça, je me garde ça pour tout à l'heure. C'est un circuit, une porte logique. Donc, pour revenir à mon circuit, donc je vous ai mis ici le lien si ça vous intéresse. Encore une fois, quand on regarde sur le dessus, là, j'ai trouvé une photo sur internet, donc il y a à la fois l'encoche et le point. Quelquefois il n'y a que l'encoche et quelquefois il n'y a que le point. Là il y a les deux, et c'est le point, c'est ce qui va déterminer la patte numéro 1, et faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retrouver l'ensemble des pattes dans ce sens là et quand on a ici un TO3, un boîtier TO3, la patte numéro 1, elle est devant, évidemment, l'ergo. Et, encore une fois, alors non, justement, c'est ça qui... En fait, comme on est là, comme on regarde en dessous, il faut tourner dans le sens horaire. Mais si on est au-dessus, il faut tourner dans le sens anti-horaire. Hein ? C'est-à-dire que selon que vous le regardez par en-dessous ou par au-dessus, ben c'est pas le même sens, évidemment. Donc ça, c'est un 741 dans un boîtier. Alors, c'est peut-être pas un Théo, celui-là, mais pardon, un Théo 3, mais c'est un boîtier qui ressemble à un boîtier de transistor, hein, si ce n'est qu'il a 8 pattes. Et quand on regarde à l'intérieur, j'ai trouvé cette photo-là sur Internet qui était, je pense, intéressante. Donc il y a une patte ici qui est reliée à rien du tout. Ah non, c'est celle-là qui est reliée à rien du tout. Celle-là, elle a été maltraitée quand la personne a démonté le circuit. On voit qu'il y a des tout petits fils là qui se raccordent ici au circuit intégré qui ressemble à celui-là. Hein. Quand on zoome, on va retrouver un petit peu la forme. Le dessin du circuit, hein, quand on regarde là, on retrouve un peu le traçage du circuit. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais enfin, voilà. C'est toujours intéressant de voir comment c'est foutu à l'intérieur. Évidemment, pas de questions à l'examen là-dessus. Voilà. Les questions à l'examen, ça va être posé sur le montage fondamental de l'amplificateur opérationnel. Et ce montage fondamental, c'est ce qu'on appelle l'amplificateur inverseur de tension. Comment ça fonctionne ? Donc j'ai mon ampli-op qui est là. Alors, vous remarquez que j'ai omis ici d'indiquer mes deux points d'alimentation. Mais c'est normal, un ampli-op pour qu'il marche, il faut qu'il soit alimenté, sinon il ne va pas fonctionner. Et j'ai deux, donc sur ma sortie, qui est ici, là, qui est reliée ici, entre la sortie et mon entrée inverseuse, j'ai une première résistance qui s'appelle une résistance ici de contre-réaction, et ici, sur mon entrée, j'ai une deuxième résistance qui s'appelle la résistance d'entrée. Donc, jusque-là, tout va bien. Mon entrée positive est aussi reliée à la masse, ce qui veut dire que mon ampli-op, il va être relié ici à une tension positive, par exemple plus 5 volts, et à une tension négative, par exemple moins 5 volts. D'accord ? Ou autre manière de voir aussi, si ici je le mets à la masse, donc 0 volt, et de l'autre côté à 10 volts, il faut que mon entrée ici positive soit à une tension à mi-chemin aux alentours de 5 volts. Et comment je vais obtenir mes 5 volts ? Avec tout simplement un pont de résistance. Comme je n'ai aucune intensité qui rentre ici dans mon ampli-op, ça va exactement être la répartition que j'ai faite grâce à mes résistances. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne. Alors voilà le schéma. Comment ça va fonctionner ? Eh bien, ici c'est important. J'ai deux points qui sont importants, c'est ce point N et ici ce point P, donc N comme négatif, P comme positif. Si mon point N a une tension inférieure à mon point P, d'accord ? Si je suis inférieur, donc tout va bien, puisque N, la tension négative est bien, c'est vrai, c'est-à-dire que j'aurai quelque chose qui est vrai. Voilà, c'est la logique de mon ampli-op. Donc si la tension négative est bien inférieure à la tension ici plus, eh bien, ma tension, je l'ai dit tout à l'heure, va être reliée au plus. Donc, je connecte ici ma sortie au plus et j'envoie du plus ici. Qu'est-ce qui se passe ? Comme j'envoie du plus ici, évidemment, c'est ce que je récupère en sortie, tant qu'à faire, mais comme j'envoie une tension positive ici, eh bien, je vais avoir du courant qui va passer dans ma résistance jusqu'à ici mon entrée, puisque ma loi d'Ohm va me dire, eh bien, tu vas avoir de l'intensité qui va partir dans ce sens-là, puisqu'ici j'aurai une tension plus importante qu'ici. Et donc ça, tout simplement, c'est ma loi d'Ohm. Ma loi d'Ohm qui me dit que l'intensité, c'est égal, I est égal à U sur R. Donc U, c'est la tension ici, du coup, de mon alimentation, hein, puisque c'est ma tension d'alimentation qui revient ici, donc ma tension d'alimentation, est divisée par R, puisque ici, c'est une résistance. Tout au moins, c'est la différence de tension que j'ai entre ce point ici et l'alimentation, divisée par la résistance. Si bien que je vais avoir une intensité dans l'autre sens que ce que j'ai indiqué ici. Et donc, du coup, la tension ici, à mon point N, du coup, elle va augmenter. Ça marche à tous les coups, ça. Et comme elle augmente, eh bien, à un moment, elle va être au-dessus de ma tension ici P, donc de ma tension sur mon entrée positive, et par conséquence, je vais avoir ma logique qui va plus être vraie, et comme ma logique n'est plus vraie, eh bien, mon ampli-op ici va se connecter à la tension négative. Laquelle tension négative, je vais bien la récupérer ici, et du coup, je vais avoir une intensité entre N et, dans ce sens-là. L'intensité va avoir changé de sens. Donc, je vais être continuellement dans un système comme ça, non équilibré, instable, et au final, le système va s'équilibrer lorsque je vais avoir la tension ici au point N égale ici à la tension au point P. Et lorsqu'on a ceci, eh bien, on va avoir ici une intensité R2 qui va être fonction de du système qu'on aura mis en place avec ici la tension, parce qu'on peut la faire varier cette tension après, par la tension d'entrée à avec ici une résistance R1. Cette résistance, puisque encore une fois, je n'ai pas d'intensité qui circule dans mon entrée négative, et donc toute l'intensité de R1 va se retrouver dans R2. Et au final, je vais avoir un système qui va se stabiliser autour d'un rapport qui va être entre cette résistance de contre-réaction et cette résistance d'entrée. Donc c'est vraiment une application jusqu'au boutiste de la loi d'Ohm, ça. Enfin, de la loi d'Ohm et de la loi des mailles, puisque ici, je n'ai pas d'intensité. Ici, j'ai une impédance infinie en entrée, donc pas d'intensité. Et donc, toute l'intensité du circuit, eh bien, elle va passer ici dans R1, puis après dans R2, elle va se retrouver ici en sortie. Donc, j'ai réussi, avec un système relativement simple, à créer un amplificateur dont le coefficient d'amplification va être directement rapport ici des résistances. Et c'est pour ça que c'est directement rapport, sauf que ça inverse, puisque ici j'ai une entrée inverseuse. C'est-à-dire que si ici j'ai une entrée positive, sur mon entrée j'ai une tension positive, je vais avoir en sortie une tension négative. et inversement. Donc effectivement, c'est un pont diviseur. C'est un pont diviseur avec une contre-réaction. Et donc, ma tension de sortie, là, ça va être moins la tension d'entrée, puisque c'est quelque chose qui inverse, multiplié par le rapport de la valeur de R2 divisé par R1. Tout simplement. Et le gain en tension, alors encore une fois, attention, là on va parler d'un gain, mais c'est pas un gain en décibels, c'est comme le gain des transistors. Ok ? Sauf que le gain des transistors, c'était un gain en intensité, là c'est un gain en tension. Donc le mot gain, c'est très, très perturbant, parce que selon ce dont on parle, soit c'est des gains, donc c'est des décibels, ou c'est de l'intensité dans le cas du transistor bipolaire, ou c'est de la tension dans le cadre d'un d'ampli-op. Donc voilà, c'est un mot qui est un petit peu... On aurait utilisé un autre mot, qu'on s'en serait quand même un peu mieux porté. Mais voilà, donc le mot il est là, on le garde. Et donc le gain en tension, le gain donc G, c'est égal à moins R2 sur R1. Donc évidemment, les questions à l'examen, ça va porter, on va vous présenter un montage, on va vous demander soit le gain, soit on va vous donner le gain et une des deux résistances, et il faudra trouver la deuxième résistance, ou encore autre chose, on vous donne une tension d'entrée, les deux résistances, et il faut trouver la tension de sortie. Donc vous voyez, on peut avoir comme ça plein de questions autour de ce circuit-là, mais uniquement sur ce circuit-là, puisque, alors c'est pas écrit, mais les trois quarts des questions portent sur ce montage-là qu'on avait appelé donc montage inverseur de tension. Parce qu'évidemment, après, on peut multiplier, une fois qu'on a un peu touché le système, on essaye de trouver d'autres montages plus intelligents, plus soux, etc. Et là-dessus, il y a eu énormément de travaux, d'autant plus que ce genre de circuits, c'est des circuits qui coûtent rien du tout. Hein, vous pouvez en acheter des dizaines pour 1 euro ou 2 euros, vous aurez plus cher de port que de circuits. Et donc, voilà, c'est des trucs qui sont hyper classiques, mais pas très utilisés en haute fréquence, parce que comme c'est un système qui est instable, donc par nature, ça génère quand même pas mal de souffle. Et donc, on va plutôt utiliser ça soit en BF ou dans des applications purement logiques. Mais assez peu dans les applications radio, tout au moins assez peu en HF. On va l'utiliser en BF, parce que l'oreille, elle s'en fout un petit peu du bruit. Mais par contre, en HF, ça peut poser des problèmes au niveau, parce que c'est des amplis. S'il y a du bruit, eh ben, automatiquement, ça va noyer un peu plus le signal qui arrive sur l'antenne. Donc c'est un peu dommage de perturber ce signal-là alors qu'on en a besoin. Donc c'est voilà. Donc on va plutôt utiliser ça en BF et pas trop en HF, même pas du tout en HF. J'en vois rarement en HF. Donc ça, c'est le montage super classique. Les questions à l'examen, voilà. Donc, quel est le gain de ce montage? Donc là, on parle de gain. Donc on a l'entrée, la sortie, voilà. Donc le plus, le moins. Donc on a 5000 ohms et 25 kilo-ohms. Alors évidemment, le piège, c'est que les 25 kilo-ohms, évidemment, il faut les transformer en ohms, évidemment, on divise bien, enfin, on utilise le même multiple, hein, sinon on va au-devant des catastrophes. Et évidemment, la réponse moins 40, c'est-à-dire 5000 divisé par 25, moins 20, c'est-à-dire 5000 divisé par 25, c'est certain qu'elle y sera. Voilà. Alors effectivement, Bernard dit, et pour les filtres, oui, il y a plein d'applications, on va y venir. On va y venir, il y a des tas d'applications. Là, je vous présente les questions les plus courantes à l'examen. Et donc les plus courantes, ça va concerner essentiellement le montage inverseur. Une deuxième question, où là j'ai pas de schéma, c'est juste voilà, de la littérature. Un amplificateur opérationnel, tant qu'il fait, non pas un amplificateur op, monté en inverseur à un gain de moins 3 avec une résistance à l'entrée R1 de 1000 ohms. Quelle est la valeur de la résistance de contre-réaction? Évidemment, comme c'est moins 3, il faut qu'elle soit 3 fois plus importante, hein, puisque c'est moins R2 divisé par R1. Donc pour avoir moins 3 et qu'on a déjà 10 000 au numérateur, au dénominateur, il me faut bien 30 000 ou 30 kilo-ohms. Et puis, quelle est la tension en sortie? Donc là, j'ai les valeurs des résistances. J'ai moins 0,5 volts en entrée. Donc ici, j'ai un gain ici de moins 5, c'est-à-dire 500 divisé par 100. Donc moins 5, et donc moins 0,5 multiplié par moins 5, hein, moins par moins ça me donne plus, et donc en sortie j'ai ici 2,5 volts. Évidemment, dans les réponses, vous êtes certain que vous ayez moins 2,5, qui n'est pas la bonne réponse, puisque ici c'est un système qui est donc inverseur. Les autres schémas, puisque Bernard était pressé de les voir, donc on a le schéma qui est non inverseur, qui est ici, et donc ici, mon entrée, elle se situe sur l'entrée positive. Et ma contre-réaction, elle est toujours sur mon entrée, enfin sur mon entrée inverseuse, oui. Donc, en revanche, là, elle n'est pas reliée à mon entrée, là, elle est reliée à la masse. En revanche, on a toujours ici le même rapport, mais comme ici je suis sur une entrée positive, je rajoute la tension présente ici sur l'entrée. C'est pour ça que mon gain, c'est R2 divisé par R1 plus 1. Plus 1, c'est parce que ici, j'ai la tension ici sur l'entrée positive qui vient se rajouter finalement. Donc j'ai gagné une unité de plus. Et du coup, je perds aussi le signe négatif. Donc ça, c'est mon système non inverseur. Alors, soustracteur, c'est... Alors, j'ai appelé ça soustracteur, c'est... Je suis pas fier de moi, mais bon... J'ai pas d'autre manière de l'expliquer. Toutes les résistances ici ont la même valeur. Et quand on quand on regarde ici la tension sur l'entrée négative et la tension sur l'entrée positive, en fait, ce système-là va soustraire la tension sur l'entrée négative par rapport à la tension sur l'entrée positive. Et c'est ce que l'on va avoir ici en sortie. Et donc, dans ce cas-là, puisque mes deux résistances sont égales, eh bien, j'ai un gain qui est constant. Et la tension de sortie, c'est égal à la tension d'entrée moins la tension de sortie. La tension sur l'entrée positive moins la tension sur l'entrée négative. Voilà. Donc ça, c'est un cas particulier. Si vous voulez mettre des coefficients différents, eh bien, il suffit de mettre ici ces coefficients sur les résistances. Par exemple, vous voulez deux fois plus, un effet de deux fois plus important sur l'entrée négative, et bien ici, vous mettez R, ici, là, pour cette deuxième résistance, vous la mettez deux fois plus importante ici que la résistance que vous avez ici. Voilà, donc, et ça, ça devrait fonctionner. Autre montage assez... Alors, il est utilisé pas mal, mais c'est plutôt dans tout ce qui est contrôle et notamment quand on utilise derrière une varicap. Je m'explique. Ici, vous avez un potentiomètre qui va vous permettre de remplir ou vider votre condensateur selon la tension qu'on met ici sur la résistance. Si c'est une tension positive, ça va remplir le condensateur. Si c'est une tension négative, ça va le vider. Et donc, mon système, là, c'est ce qu'on appelle un système intégrateur, parce que de manière mathématique, eh bien, j'intègre la tension, donc c'est l'intégrale de la tension que j'ai ici en entrée. Lorsqu'elle est positive, ça vient augmenter ici la tension de sortie et donc la tension aux bornes de mon condensateur. Et inversement, si j'ai une tension qui est négative, ça vient vider mon condensateur et diminuer la tension que j'ai en sortie. Et si cette tension que je mets en sortie, je la mets sur une varicap, eh bien, j'ai réussi à faire en sorte que je peux facilement commander en tension avec un circuit derrière un peu sioux qui peut me permettre de remplir ou de vider mon condensateur. Ça, c'est quelque chose qui est assez utilisé dans tout ce qui est commande de circuit, des commandes, tout ce qui est commande. Autre filtre, et ça Bernard en parlait, ce sont les filtres RC. Donc on voit ici, il y a un filtre RC série, et ici un autre filtre RC. Donc ça, c'est un filtre qui est uniquement constitué de résistance et de condensateur, mais il y a deux composants actifs qui sont deux condensateurs. Et ce système-là, c'est un filtre de bande qui est qui laisse passer une bande alors qui est déterminée ici par les valeurs R et C, hein, et ça fait une coupure avec un flanc de 12 dB par octave, ce qui est quand même pas si mal que ça, et qui va être surtout utilisé ici en audio. Et donc ici vous avez une des deux fréquences, et vous pouvez faire varier la largeur du filtre ici en faisant varier tout simplement la valeur des résistances. Puisque généralement on fait varier la valeur des résistances, c'est beaucoup plus simple que de faire varier la valeur des condensateurs. Voilà, donc ça c'est des filtres RC assez simples et qu'on retrouve assez facilement dans des filtres, tout simplement des filtres audio, quoi. Encore une fois, on va très peu l'utiliser en radio pure, puisque l'ampli-op, ça génère beaucoup, beaucoup de bruit. Donc on n'aime pas trop ça. Et enfin, et ça on en avait déjà un peu parlé quand on avait fait les classes d'amplificateurs, on va utiliser aussi mon ampli-op pour les amplificateurs en classe D. Et là, tout simplement, je vais mettre sur mon entrée positive une horloge. Donc là, j'ai mis un signal d'ANSI, mais je peux mettre aussi un signal triangulaire. Carré, ça ne marchera pas, mais triangulaire ou d'ANSI, comme on veut. Et ici, sur mon entrée négative, ici, je mets le signal à amplifier. Et en sortie, eh bien, ici, je vais avoir un signal à impulsion variable, c'est-à-dire que il faut que ma fréquence d'horloge soit largement supérieure à la fréquence ici de mon signal à amplifier, et c'est cette fréquence d'horloge qui va faire ici que les largeurs d'impulsion vont être fonction de là où ça démarre dans mon ampli-op. Je vous fais un petit zoom. C'est peut-être plus facile à comprendre comment ça marche. Voilà. Donc, selon l'endroit où on se trouve, là, on va avoir ici le signal de sortie, hein, je vous ai mis les traits bleus ici qui correspondent aux traits bleus ici, qui sont peut-être pas super, super simples à voir, mais quand on est dans une partie ici positive, on va avoir une très large bande ici, très large impulsion, et quand on va être dans la partie négative, on va avoir une très petite impulsion là. Et donc c'est après cette impulsion variable, eh bien on met un filtre passe-bas ou rien du tout, parce que si c'est de la BF, on met les oreillettes directement dessus, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait dans les smartphones, hein, tout simplement, on fout les oreillettes dessus, et c'est l'oreillette et le cerveau humain qui fait le filtre passe-bas. Évidemment, le tympan de l'oreille en prend un petit coup au passage. Parce que lui, le tympan de l'oreille, il a bien la fréquence ici de l'horloge. Il se la prend bien. Donc, voilà, donc c'est peut-être pas les meilleures solutions. En tout cas, ce système-là, du coup, a un rendement très, 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 très intéressant. Parce que, comme c'est du tout ou rien, eh ben on arrive à avoir des rendements de 80-90% et l'amplificateur ne chauffe quasiment pas. En plus, comme quand on est ici en sortie, on a une très basse impédance, ça tombe bien puisque les oreillettes, enfin tout au moins ce qu'on utilise dans les téléphones portables et les haut-parleurs de téléphones portables, ont aussi une impédance très faible. Ils fonctionnent essentiellement en intensité. Donc ça tombe très bien. Voilà, pas de questions sur la classe D, hein, je vous rassure. Mais voilà, que vous sachiez de quoi on parle. Alors évidemment, quelques questions sur le montage non inverseur. J'ai pas vu, enfin tout au moins j'ai pas compris qu'il y avait d'autres questions sur d'autres montages, mais peut-être, et tout au moins quand il y en a, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Mais regardez bien la manière où est l'entrée, si c'est l'entrée, elle est bien sur le négatif ou sur le positif. C'est ça qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Donc on a vu les ampli-op, c'est là-dessus où il y a le plus de questions. Maintenant, tout ce que l'on va voir, même si c'est au programme de l'examen, il y a très 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 peu de questions. Donc, voilà. Je ne les ai pas mis en italique, mais j'avais une grosse envie de le faire. Donc, à ce jour, il n'y a eu qu'une seule question recensée sur les circuits logiques. Une seule. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais tout au moins, elles n'ont pas été remontées. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres, de quoi elles parlent. Donc, les circuits logiques, c'est quoi? Ce sont des opérateurs qu'on appelle binaires, c'est-à-dire qu'ils vont fonctionner avec des 0 et des 1. Voilà. Ils connaissent que deux positions, 0, c'est 1, 0 ou 1, selon, finalement, la tension que l'on a en sortie, et la logique qu'on appelle une logique TTL, qu'on va avoir partout en informatique, c'est une logique qui dit que si on a 0 volts, c'est 0, et si on a 5 volts, c'est 1. Alors, il y en a plein qui vont me dire, oui, il y a d'autres logiques, mais la logique TTL de l'informatique, c'est 0,5 volts. La norme, c'est ça. Et donc, à partir de cette logique, on va trouver des portes logiques, et les portes logiques, ce sont des composants, donc des circuits intégrés, qui ont une certaine logique. Voilà. Et la logique, c'est quoi? On va voir, donc c'est les fameux calculs booléens, ou calculs de boules, comme on veut. Donc, on a en tout et pour tout, on a quatre grandes familles de circuits. Enfin, plus exactement, on en a trois et on a un joker. Alors, on a la grande famille des « et ». Alors, les « et » en français, « and » en anglais, où on a aussi le « et » commercial, comme ça, l'esperluette. Et donc, ça, c'est la porte « et ». Voilà. Donc, elle se repère comme... Parce qu'elle a ici, sur l'entrée, c'est bien droit, et le bout ici, il est rond. Voilà, comme ça qu'on les repère. Et l'entrée est, bah, il faut que l'attention sur A et sur B soit à 1, pour que ma sortie soit à 1. À partir du moment où j'ai 0 sur, donc 0 volt sur A ou sur B, eh ben, j'ai pas 1 en sortie. Donc la logique, c'est il faut que j'ai l'attention à 1 sur A et sur B. Sinon, c'est pas bon. C'est assez bestial comme... voilà. Alors, là, je vous ai mis des composants où il y a 2 entrées. Mais on peut trouver des composants avec plusieurs entrées. Il n'y a toujours qu'une seule sortie, mais il y a des composants qui peuvent avoir plusieurs entrées. Et donc, la logique reste la même. Il faut que toutes les portes soient à 1 pour que la sortie soit à 1. Si on a une des portes qui n'est pas à 1, et bien la sortie elle est à 0. Inversement, pour la porte « ou », donc c'est « or » en anglais et « supérieur ou égal à 1, c'est le terme qui sont sur les schémas. D'un point de vue booléen, c'est la fonction plus, alors que pour la fonction et, c'était la fonction multiplicateur. Donc la fonction plus et la fonction ou, ben, c'est A ou B. Donc si A ou B sont à 1, eh bien la sortie est à 1. Donc il suffit qu'il y en ait, et si on a plusieurs portes, il suffit qu'il y ait une seule des portes du circuit qui soit à 1 pour que la tension sur la sortie soit égale à 1. Évidemment, si on a toutes les portes à 1, ça reste valable aussi. Hein. Et il suffit d'une et d'une seule qui soit à 1 pour avoir 1 en sortie. Donc ça, c'est la fonction OU. Voilà. Et quand on regarde une table de vérité, donc ici j'ai toutes les possibilités avec ma tension A et ma tension B, donc j'ai 4 cas possibles puisque j'ai 2 possibilités sur chaque porte, et donc là en sortie il faut que j'ai 1 et 1 pour avoir 1, alors que pour ici ma tension sur ma porte OU, il suffit que j'ai A ou B à 1 pour avoir 1, et si j'ai A et B à 0, eh ben, je suis mort, c'est à 0. J'ai un joker dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le petit rond. Le petit rond qui est là, donc que j'ai mis en sortie, mais on peut aussi très bien imaginer l'avoir en entrée. Le petit rond, tout simplement, il inverse la logique. C'est-à-dire tout ce qui voit à 1, il inverse et c'est 0. Et inversement, tout ce qui est à 0, ça devient 1. Donc ça, c'est une porte non et, puisque ma sortie, elle est à non, et donc une porte non et. Alors, dans l'algèbre booléen, donc c'est la multiplication, puisque c'est la porte et comme c'est non, il y a une barre au-dessus. Il y a une barre au-dessus. Et donc, ça, c'est, ça, en algèbre booléen, on appelle ça non et. Et la sortie, finalement, elle est, la logique de la sortie, elle est inversée par rapport à ma logique, ici, de ma porte E. OK ? Et quand on est en algèbre booléen, donc on commence à réfléchir. Alors, Monsieur Boulle, c'était pas du tout, il n'a pas du tout fait l'informatique, lui, c'était un statisticien. C'est-à-dire qu'il faisait des calculs sur les probabilités, et à un moment, il a réfléchi sur, voilà, s'il se passe tel truc, et tel truc, voilà. Donc, C'est ce genre de réflexion qui lui a permis de déterminer son algèbre à partir des possibilités, en fait. Hein, des possibilités vraies, faux. Et donc, il a développé des tas de théories, et puisqu'il a développé ces théories au XIXe siècle, alors que l'informatique n'était absolument pas développée, ça n'existait pas. Et donc, il y a plusieurs théorèmes comme ça, et il dit, non et, c'est égal à non A ou non B. C'est-à-dire que quand on regarde, en fait, on va utiliser une porte OU, ici, et donc on va inverser ici la logique de la porte, hein, donc non A ou non B, et donc pour que ce soit faux, il faudrait que toutes mes entrées ici soient à 1, pour que ici tout soit à 0 et que ça soit à 0 ici. Un truc très tordu, mais non A et B, c'est égal à non A ou non B. Voilà, donc après on peut s'amuser à tout mélanger, hein, tout ça. Et enfin, la dernière porte qui est utilisée, qui a une logique très particulière, c'est ce qu'on appelle la porte OU exclusif. OU exclusif, c'est très tordu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une et une seule porte à 1 pour que ma sortie soit 1. Si j'en ai 2 à 1, c'est 0, et si j'en ai eu aucune à 1, c'est aussi 0. Donc il faut que j'ai une et une seule sortie à 1 pour que ma sortie soit à 1. Et ça va être utilisé notamment dans tout ce qui est système de sécurité. C'est-à-dire que, il faut que la porte du SAS, la porte numéro 1 du SAS soit fermée, pour que je puisse ouvrir la porte numéro 2 du SAS, par exemple. Donc tout ça, c'est assez tous les systèmes d'alarme aussi. Ils vont tourner essentiellement autour soit des portes E ou souvent des portes OU exclusives. Il faut qu'il y ait plusieurs systèmes qui soient en phase en même temps. Et donc là, on a une opération particulière qui est le plus entourée d'un cercle. Et donc, cette fonction particulière, c'est égal à non A et B ou A et non B. On va voir tout à l'heure quand on passera sur les questions d'examen, parce qu'il y a eu une question sur cette porte, qui est quand même assez tordue. Donc, je vais vous présenter le 4001. Alors, le 4001, c'est une porte qui a marqué Nord. Donc, à l'intérieur d'un 4001, il y a des portes Nord et des portes Nord. Donc, non OU et non E. Donc, voilà. Alors, exactement, c'est de 4001 à 4011. Et mon 4001, ce sont donc des portes non. Alors, le 4001, c'est des portes non OU, et le 4011, ce sont des portes non et. Voilà. Donc, vous avez un. Et pareil, encore une fois, l'alimentation. Donc, le plus ici, le moins ici. Et ici, vous avez les différents brochages, les différentes pattes. Donc à chaque fois, ça c'est un 14 pattes. Et à l'intérieur, donc ça c'est sur un des circuits, à l'intérieur, voilà comment c'est constitué Donc ça, c'est un non et. Non, c'est un non ou ça, et ça, c'est un non et. Donc voilà le schéma de comment c'est fait à l'intérieur. Alors, il n'y a pas, non, il n'y a pas le. Enfin, la description, comment dire, le dessin de la puce, mais bon. Et puis ici, bah, vous avez encore une fois, comme dans toutes les datasheets, les maximums et les minimums des tensions et les intensités qui sont que le circuit peut accepter. Voilà, et puis ça, bah, c'est les différentes courbes. Et encore des courbes. Et encore des courbes. Voilà. Et ici, les dimensions. Mais c'est des dimensions qui sont très standards, et donc, voilà, qui ne sont pas spécialement liées, spécifiques au circuit logique. Hein. Tous ces composants-là ont les mêmes caractéristiques, enfin, les mêmes valeurs et les mêmes mesures. Donc encore un autre schéma avec ici le fameux point ici qui permet de repérer la patte numéro 1. Voilà, encore une fois. Donc ici il y a à la fois et l'encoche et la patte. Enfin, et le point qui permet de repérer le numéro 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur mes circuits logiques. Je reviens sur mon PDF. Donc là, Jeb Boolean, donc ça c'est Monsieur Boole, hein, qui était un Anglais qui a travaillé sur l'algèbre binaire. Donc son traité date de 1844. Donc 1844, on venait à peine de découvrir l'électricité, donc on n'avait pas encore commencé à travailler sur l'informatique. La table de vérité, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc avec l'entrée et la sortie. Voilà, donc ça c'est une porte OU. Alors, on a une des problématiques de nos circuits logiques. C'est que bon, on a dit, voilà, on passe de 1 à 0 et de 0 à 1, ok, mais que se passe-t-il quand justement, parce que le passage de 0 à 1, c'est pas un instant de raison, hein. Il y a un passage qui est plus ou moins graduel de passage de 0 à 1, et donc, ça peut, pour certains circuits, poser problème de passage. Et donc, on est un petit peu comme dans un ampli-op où on ne sait pas trop où on est et le système est un peu instable. C'est très gênant puisque, par définition, le 0,5 n'existe pas. Hein, c'est 0 ou 1, mais 0,5, ce n'est pas possible. Et donc, on a tous des systèmes qui permettent de finalement faire en sorte que lorsqu'on est dans une position bizarre, du style au lieu d'avoir le 0 volt, bah, on a 2 volts, et bien du coup, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est toujours à 0 ou est-ce qu'on est basculé sur le 1? Et donc, le système, on utilise ce qu'on appelle des triggers de Schmitt, donc ce sont des circuits qui sont des portes et ou enfin, n'importe quel type de porte, en l'occurrence c'est une non et celle-là, mais qui a un trigger de Schmitt, c'est-à-dire un système qui permet de basculer d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire que en clair, pour que la position passe de 0 à 1, il faut que la tension soit supérieure à 4 volts, par exemple, et lorsque et pour passer de 1 à 0, il faut que la tension redescende en dessous de 1 volt. C'est exactement ce qui se passe là, si bien qu'avec ce système-là, eh bien, on est certain de ne pas créer d'auto-oscillation un peu cafouilleuse. Donc c'est pour ça qu'on utilise ce système-là, et ça c'est lié à ce qu'on appelle l'hystérésis, qui vient du grec qui veut dire plus tard, c'est-à-dire que on tend à demeurer dans le premier état jusqu'à temps qu'on ait, on est au-delà d'une certaine valeur. Hein. Et donc, le trigger en anglais, c'est la gâchette. Et donc, c'est ce qui va permettre de passer d'un état à l'autre sans avoir un phénomène d'auto-oscillation. Alors, on peut aussi le créer nous-mêmes, ce phénomène d'auto-oscillation, notamment lorsque l'on rajoute ici une résistance et un condensateur. Et quand on a ce système-là, en fait, ici, ça devient un oscillateur. Alors, c'est un oscillateur carré, puisque ma tension, elle est 0 ou 1, toujours. Hein, donc, ça c'est toujours carré. Et selon ici que le condensateur se remplit ou se vide à travers la résistance, eh bien, on va basculer d'un côté et de l'autre, puisqu'on ramène ici la tension avec la fonction E sur l'entrée. Donc en fait, on a créé ici un système instable, on a créé un oscillateur. Un oscillateur qui génère des tensions crénelées. Et cette fréquence, elle va lui être liée à la résistance ici et au condensateur. Bon, pas de questions à l'examen là-dessus, heureusement. Je vous ai rajouté aussi, mais ça c'est pour votre information, d'autres systèmes utilisés pour les circuits logiques, comme par exemple des mémoires. Alors ça c'est un système très ancien de mémoire, parce que ça nécessite quand même deux portes, soit non ou non et. Et en fait, le système va garder en mémoire, donc sur les sorties ici, le dernier commutateur ici qui a été activé. Donc si c'est le commutateur numéro 1 qui est activé, le système va envoyer ici une tension positive à 1 ici sur à 0 pardon sur S1 et S2 ici va être à 1. Et inversement, si la dernière tension activée ici est sur l'entrée 2, et bien ici c'est le S2 qui sera à 0 et S1 qui sera à 1. Inversement ici avec mes portes non et. Donc ça c'était les anciens systèmes dans les années 80, c'était les anciens systèmes de mémoire ça, qui fonctionnaient comme ça, et évidemment dès que vous n'alimentez plus, le système ne garde pas en mémoire, évidemment, puisque mon circuit n'est plus alimenté, c'est perdu. Et donc, ces systèmes de mémoire, c'était excessivement gourmand. Pourquoi ? Parce que tous ces systèmes-là, ça consomme de l'énergie. Si vous avez des petites résistances, ça me permet juste d'avoir en mémoire un bit. Hein, c'est pas un octet, hein, c'est un bit. Donc c'est un peu c'est un système qui a été utilisé pendant une dizaine d'années et qui a été très vite abandonné parce que ça consommait énormément d'énergie et puis il y avait besoin de pas mal de composants de transistors, hein, puisqu'à chaque fois c'est une porte, hein. Enfin c'est deux portes à chaque fois. Donc pour créer des mémoires avec de quelques kilo-octets, eh bien il fallait des milliers de transistors pour que ça puisse fonctionner. Donc c'était pas très très pratique. Et donc maintenant on utilise depuis l'arrivée notamment des clés USB, ou même lorsque votre clé USB n'est pas alimentée, eh bien garde quand même en mémoire. Et donc cela, c'est grâce à des transistors FET. Voilà, c'est ce qu'on appelle c'est des FET à grille flottante. Donc on a un transistor FET, donc on reconnaît un peu un peu le MOSFET, un petit peu, puisque ici on a notre condensateur, et ici on a un substrat P et des points ici N. Et quand on a une tension ici positive sur le condensateur, donc on a envoyé un bit 1, donc ici, de l'autre côté dans le substrat, on a des charges négatives dans un substrat P, donc vous allez avoir ici la possibilité d'avoir un passage de courant entre mes deux bornes, ici. En revanche, lorsque j'ai ici un bit à 0, donc avec une tension négative, ici j'ai une tension positive du côté de mon substrat, si bien que je ne peux pas avoir de passage de courant ici entre mes deux bornes, tout simplement. Et donc ça fonctionne, y compris lorsque ce n'est plus alimenté, puisque mon condensateur a une impédance infinie, et donc une fois qu'il a été chargé, il ne se décharge plus. Voilà, donc voilà, c'est pas de question à l'examen dessus, mais voilà, c'est pour vous montrer que d'un système qui était quand même assez compliqué avec des portes non et, on arrive à un système beaucoup plus simple, et donc du coup on arrive à miniaturiser les composants, et surtout ce qui est très intéressant, c'est que ça garde en mémoire, y compris lorsque ce n'est plus alimenté. Voilà, je vous ai rajouté quelques trucs sur le système binaire. Alors, le système binaire est au programme de l'examen AREC, mais ça n'a pas été retranscrit dans l'examen français. Voilà, donc on n'en sait pas plus. On va voir tout à l'heure l'examen français, ce que l'on a ajouté tout récemment. Et en tout cas, ça n'en fait pas partie, mais je l'ai laissé quand même, je ne l'ai pas mis en italique, parce que, voilà, on est susceptible d'avoir quand même quelques questions. Je soupçonne la NFR d'avoir des idées saugrenues de temps en temps. Donc, le système binaire, donc ça repose sur des bits. Alors, un bit, c'est donc un binary digit. Donc un chiffre binaire en anglais, hein. Digit c'est chiffre et binary binaire, et donc c'est ce système binaire ne comprend que deux valeurs, on l'a déjà vu tout à l'heure, 0 ou 1, et donc pour aller plus simplement, on va faire des codages sous forme de groupes de bits. Ces groupes de bits, on appelle ça des octets. Et un groupe de 8, un groupe de bits, c'est en l'occurrence c'est 8 bits, avec à l'intérieur deux demi-octets. Donc on a un octet principal et un octet secondaire. Et donc les octets, eux, comme on a un système, si on est en octet, du coup on a donc 16 possibilités de 0 à 15. Et dans notre système que l'on a en système décimal, y a des chiffres que l'on ne connaît pas. Et comme on ne connaît pas les chiffres de 10 à 15, eh bien on leur a donné des lettres. Donc vous avez des lettres comme ça, A, B, C, D, E, F. Voilà. Et donc ça c'est en décimal, et en dessous je vous ai donné la valeur binaire, à quoi correspond ces valeurs décimales, et ici en hexadécimal, donc avec ici des valeurs qui permettent de déterminer la valeur d'un bit. Donc si vous avez un octet, il aura deux caractères, en hexadécimal. Par exemple, il pourra avoir 3C, et donc si c'est mon octet comme valeur 3C, c'est quoi? C'est 0, 1, 0, 0, 1, 1, et 1, 1, 0, 0. Voilà. Donc, je ne vois pas trop quelles questions on peut poser dessus, mais voilà, faut que vous sachiez de quoi il retourne. Autre, pour aller un peu plus loin, mais ça on reviendra dessus un petit peu quand on fera les classes d'émission. Classe d'émission, donc ça c'est plutôt chapitre 12, hein, donc c'est beaucoup plus loin. Donc mes petits rappels en arrière de réglementation pour codifier une classe d'émission qui transmet des données, on va utiliser en troisième caractère la lettre D, hein, D comme données data. Il faut bien se rendre compte que dès qu'on utilise la lettre D, c'est que derrière, il faudra avoir un système qui permet d'être certain que tous les bits qu'on a reçus sont correctement reçus. Voilà. Et éventuellement avoir un système de correction. Hein, parce qu'évidemment, dès qu'il y a un bit qui est mal compris, eh ben, le système, il va un peu pédaler, il ne va plus rien comprendre. Donc, dès qu'on va avoir la classe D, c'est que derrière, il y a un système, alors ça s'appelle un système de correction, un CRC, qui permet d'être certain d'avoir reçu tous ces caractères. Sinon, on va utiliser soit la lettre A, parce que c'est de la télégraphie auditive, ou la lettre B, parce que c'est de la télégraphie automatique. Quand on est en télégraphie automatique, typiquement le telex, il n'y a absolument aucun système qui permet de vérifier que on a bien reçu tous les bits. Si on les a pas reçus, et ben ça, le telex va sortir un caractère erroné. Voilà. Donc c'est un petit peu gênant. Et donc dans tous nos systèmes numériques, on va avoir systématiquement un système de correction. Alors, ça s'appelle un CRC d'un point de vue informatique, et CRC veut dire contrôle de redondance cyclique. Voilà. Et ces contrôles de redondance cyclique, en fait, il y en a de deux types. Soit c'est une liaison bilatérale, donc c'est deux stations qui causent l'une avec l'autre, et dans ce cas-là, eh bien, en fait, la station... Ici, je vous ai mis des schémas qui sont peut-être plus... Donc, premier cas. Ici, ça, c'est l'émetteur. Il envoie ses données au récepteur. Et le récepteur, une fois qu'il a décodé, alors, l'émetteur envoie aussi des datas qui permettent de vérifier que le codage, que les données soient bonnes. Donc, on rajoute des données, hein. On est obligé d'en rajouter. Et une fois qu'il a vérifié, le récepteur, une fois qu'il a vérifié que tout est correct, il envoie ce qu'on appelle un ARQ, donc un accusé de réception. Hein, comme quoi, tout est bon, vous pouvez continuer la suite. Et si, évidemment, c'est pas correct, eh bien, il dit, renvoyez-moi le paquet. Et donc, l'émetteur retransmet le même paquet. Voilà, jusqu'à temps que tout arrive correctement. Ça ne marche évidemment que s'il n'y a, enfin, ce sont les liaisons bilatérales, donc quand les deux stations peuvent émettre. Dans le cas où on a un émetteur et un grand nombre de récepteurs, typiquement la télévision. Quand vous êtes en télévision, c'est pas chaque récepteur qui va renvoyer un signal à l'émetteur télévision qui dit « j'ai pas tout compris, faut me renvoyer le signal ». Ça marche pas. Donc il y a à la fois de la data et tout un système de FEC, donc c'est des contrôles automatiques d'erreur, qui permet normalement de corriger les erreurs. Mais là, il faut encore plus de data que ce que l'on a envoyé ici dans le premier cas. Là, grosso modo, on va dire il y a presque un tiers. Enfin, en fait, plus on rajoute de données, moins on a d'erreurs possibles. Voilà. Parce qu'en plus, les erreurs, on cherche à les identifier et d'une et deux à les corriger. Voilà, donc et c'est là un des points les plus durs de la compréhension des systèmes de décodage, parce que y a pas mal de mathématiques dedans et de traitement numérique. Voilà. Pas de question à l'examen encore une fois là-dessus, mais que vous soyez bien conscient de ce type-là. Donc typiquement quand vous êtes en DMR, typiquement, vous êtes dans cette situation ici, puisque vous avez un émetteur. Et c'est pour ça que quand on dit que les F0 peuvent recevoir sans problème les trams, en fait, l'émetteur de temps en temps, enfin le récepteur de temps en temps, il envoie des accusés de réception en disant bah oui, la trame que j'ai reçue elle est bonne. Donc voilà. Et donc ce système là qui n'est peu utilisé dans les radios amateurs, c'est plutôt un système qu'on va utiliser pour la télévision ou bientôt la radio numérique. Quand vous êtes avec un GSM aussi, c'est plutôt ce système-là qui est utilisé. C'est plutôt votre GSM avec le relais de téléphonie. On en arrive au traitement numérique du signal qui a été, donc c'est la modification récente de l'arrêté du 21 septembre 2000. Donc je rappelle cet arrêté, donc article 1, l'arrêté du 21 septembre 2000, susvisé et modifié conformément aux articles 2 à 15. Donc si vous m'intéressez, moi c'est un article spécifique qui concerne uniquement le programme de l'examen. Il y a d'autres articles, notamment la suppression du point négatif, et d'autres modifs qu'on a déjà évoqués par ailleurs. Mais ce qui est important là, c'est de bien voir cette évolution du programme de l'examen. Et donc la première chose, déjà, on modifie à la marge le texte de la première partie, donc l'examen de réglementation, et on remplace tout simplement taux d'onde stationnaire par rapport d'onde stationnaire, ce qui ne change strictement rien, enfin bon, peu importe. Voilà, et il y a un deuxième module, où on dit qu'on rajoute une deuxième partie à la deuxième partie, trois alinéas ainsi rédigés, donc le indice traitement numérique du signal, donc échantillonnage et quantification, démodulation des signaux et conversion analogique digitale et digitale analogique, entre parenthèses, les mêmes choses, mais en abrégé et en anglais. Alors juste un truc, c'est que la NFR, ça serait quand même bien qu'il parle en français, parce que digital ne veut rien dire en français. Si, ça veut dire quelque chose, c'est relatif au doigt, mais absolument pas lié à tout ce qui est au numérique, puisque en français, quand on parle du numérique, c'est vraiment c'est le digital anglais. Donc voilà, ça serait quand même bien que les gens de la NFR parlent français, ça ferait plaisir à voir. Mais ça, c'était juste pour ma petite pointe d'humour du vendredi soir. Donc, vous avez vu, il y a plusieurs sujets. Premier sujet, échantillonnage et quantification. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Quand on est en numérique, en fait, on va transformer tous les signaux qui sont analogiques en nombres. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la conversion analogique vers numérique. Donc, ce qu'on appelle un CAN, donc convertisseur analogique numérique, ou en anglais, un ADC, analogique digital converter, avec mon superbe accent anglais, comme ça vous avez tout compris. Que fait ce type de convertisseur? Je vous en ai mis un ici. Concrètement, c'est ici c'est toute une série d'ampliopes. Ça tombe bien, on les a vus. Avec ici tout des résistances. Et si, donc ici, j'ai une tension qui va être ici répartie, en fait, hein, puisque ici, j'ai des résistances. Et ici, alors, donc, ici, j'ai ma tension qui ne bouge pas. Et ici, c'est là où j'ai ma tension en entrée. Et je compare à chaque fois, ici, les différentes positions. Donc ici, j'ai en tout, j'ai 7 positions, j'ai 7 volts. Et donc, si ici, par exemple, mon entrée, ici, elle est à 3,5 volts, eh bien, ça va connecter ici les 3 premiers ampliopes, mais pas celui, pas le quatrième, puisque j'ai que 3,5 volts. Donc, j'ai pas la condition qui permet de le faire basculer. Et évidemment, pas les suivants. Donc, ici, je vais avoir ici ces 3 premiers ampliopes qui vont être activés, mais pas les 4 derniers. Évidemment, dès que je change ici ma tension, je peux avoir plus ou moins d'ampliopes qui s'activent et qui, donc, du coup, vont envoyer ici un signal sous forme binaire à ce décodeur, et avec les informations qu'il a à son entrée, eh bien il va pouvoir déterminer ici un chiffre qui sera la valeur de la tension que mon convertisseur a décodé. Donc c'est assez bestial comme truc. Concrètement, comment ça va fonctionner? Ici, j'ai donc en pointillé là, mon signal analogique, et chaque trait, là, donc j'ai une cadence à laquelle le prélèvement est fait. Cette cadence, ça s'appelle un échantillonnage. Voilà. Et donc, j'ai une fréquence d'échantillonnage. Donc, c'est la fréquence d'échantillonnage, c'est finalement l'inverse ici du temps entre deux prises d'échantillons. Et c'est vraiment une très faible. C'est très court, hein, évidemment. Hein. Plus c'est court, plus on va avoir quelque chose de précis en termes ici de reconstitution de la sinusoïde. Et évidemment, à chaque fois, je me positionne à un point précis. Donc ici, quelle est la tension que j'avais à ce moment-là? Et je vais la garder jusqu'à la prise de la valeur de l'échantillon suivant. Ici, je remonte là. Ici, je remonte. Je ne peux pas aller au-dessus, puisque si je... Enfin, je ne peux pas aller au-dessus, puisque... Je prends toujours la valeur en dessous. Et même chose ici, valeur en dessous, valeur en dessous, la valeur en dessous, etc., etc. Donc ici, j'ai différents niveaux, et ces différents niveaux reconstituent à peu près la sinusoïde que j'avais ici. Donc j'ai d'une part les échantillons, et d'autre part, j'ai ici la quantification, c'est avec ici le pas de quantification, qui ici, là, dans mon cas de mon ampliope, là, c'est 1 volt. Voilà, ça, je ne sais pas combien c'est, mais peu importe. Mais ça va fonctionner de la même manière, et évidemment, on va tenter à avoir le maximum ici de pas de quantification. Hein, et donc, c'est la résolution ici, c'est le nombre de valeurs possibles que peut prendre la valeur de mon signal numérisé. Donc ici, dans mon signal, là, je ne peux avoir que 8 valeurs, c'est-à-dire que soit c'est inférieur ici à 1 volt, et ça peut ici aller jusqu'à 1 volt, donc en tout jusqu'à 7 volts, donc en tout j'ai 8 valeurs possibles. Hein. Et là, alors je ne sais plus combien j'en ai là, j'ai dû en mettre une dizaine, peu importe, mais en tout cas, ici, ma résolution, ici, c'est le nombre de pas possible. D'accord ? Et ça, c'est ce qu'on appelle la quantification. Enfin, quantification et résolution, c'est la même chose. Voilà. Donc, une fois qu'on a vu ça, bah, on sait à peu près décrire un signal, c'est-à-dire qu'après, bah, on a une série de nombres. Et une fois qu'on a cette série de nombres, bah, on va faire un traitement numérique, dont je ne vais pas vous parler, parce que je ne comprends jamais à rien. C'est très compliqué, ce que je peux vous dire, et que c'est... Voilà, les cartes son font ça très bien. Il y a des tas de logiciels et des tas de bouts de programmes qui ont été écrits et qu'on peut mettre ensemble pour faire ce genre de traitement. Voilà. Donc, alors, on en revient à cette fameuse fréquence de Nyquist qu'on avait vue la semaine dernière. Alors, ça, on va en parler avec le slide suivant. C'est que si, ici, mon signal, il est trop élevé par rapport, ici, à ma prise d'échantillon, eh bien, le signal, ici, numérisé, ne va absolument rien dire, puisque je n'ai pas, enfin, ma fréquence d'échantillonnage n'est pas suffisamment élevée pour avoir quelque chose qui ressemble à une sinusoïde. Là, ça ressemble à rien du tout. Et donc, quand je suis, quand mon signal a une fréquence supérieure à ma fréquence d'échantillonnage, enfin deux fois la fréquence d'échantillonnage même, eh bien, mon signal est, enfin, je ne peux pas le numériser. Et c'est ce que l'on va appeler ici ce signal-là, qui est supérieur à la fréquence de Nyquist. On appelle ça un alias. Voilà. Donc pour éviter ces alias qui viennent peut-être perturber notre lecture, eh bien, il faudrait insérer un filtre passe-bas avant le convertisseur pour justement éliminer tous ces alias qui peuvent venir perturber la numérisation du signal. Évidemment, on a l'inverse, c'est-à-dire le convertisseur numérique analogique, c'est-à-dire qu'on a des nombres, et à partir de ces nombres, on reconstitue une tension. Alors, et là, ça va fonctionner un peu de la même manière, mais sauf que là, on va mettre, alors là, en l'occurrence, ils ont mis des interrupteurs, vraiment des bons interrupteurs. Moi, j'aurais mis des ampliopes, encore une fois, qui permettaient, comme ça, de connecter. Ici, on a une résistance, des résistances. Et ici, on a un ampli-op qui permet de faire le système d'amplification. Donc ici, je vous ai mis le schéma de mon convertisseur numérique analogique. Ah, j'étais un peu rapide. Le voilà. Donc ici, c'est les nombres, voilà, et ici, vous avez la tension de référence, et selon le nombre qui est présent, bah, quand c'est un 1, ça fait contact, et quand il y a un 0, ça ne fait pas contact. Donc ça me donne ici des contacts avec des valeurs de résistance, et quand on regarde la somme des résistances par rapport ici, à la résistance que l'on a en contre-réaction, bah, ça va me donner une tension. Et donc ici, ça c'est mon signal en sortie théorique, et le vrai signal, tel qu'il sort de mon circuit intégré, donc avec des jolis crénelages, ce qu'on appelle des crénelages, que on va tenter de supprimer avec, encore une fois, un filtre anti-harmonique à la suite. Donc, un filtre anti-harmonique, c'est un filtre passe-bas, tout simplement. Alors, un filtre passe-bas plus ou moins violent, il faut qu'il soit, enfin, surtout si on l'utilise derrière en haute fréquence, il faut qu'il soit très violent pour qu'on puisse retrouver ici une belle sinusoïde. Sinon, on va au-devant de problèmes. C'est ce qu'on avait vu la semaine dernière avec les oscillateurs. Des oscillateurs qui pourraient, enfin, notamment les DDS, qui pouvaient générer des problèmes. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'en génèrent plus. Et les premiers DDS étaient assez méchants. Et tous les TX qui avaient des DDS étaient très problématiques et voilà, ils vieillissaient assez mal. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Et les premiers posaient plus de problèmes qu'ils n'en résolvaient. Je rappelle la loi de Fourier, qu'on a vue il y a très longtemps maintenant, mais qui nous dit que toutes les fonctions périodiques sont la fonction de somme sinusoïdale de fréquences multiples de la période. Ça, c'est toujours valable. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à partir de cette loi de Fourier que l'on va tenter de numériser, tout au moins de déterminer quelles sont les différentes composantes d'une fréquence à partir justement de ces transformées de Fourier. Donc c'est du calcul mathématique. Donc on a des séries comme ça qu'on a à partir du convertisseur analogique numérique. Et c'est ces séries-là que l'on va transformer mathématiquement pour déterminer quelles sont les différentes fréquences par une sorte de peigne et donc les différentes fréquences qui sont dans un signal et donc quantifier les différentes harmoniques ou les différentes fréquences du signal. Et donc c'est un système assez complexe. Donc en fait, on va chercher à déterminer quel est le coefficient multiplicateur de chaque ray que l'on a de chaque ray de fréquence, avec des écarts très faibles entre chaque fréquence, et qui va être déterminé par le nombre d'échantillons que l'on va traiter. Donc ça, c'est la transformée normale de Fourier. Et puis après, il y a eu des mathématiciens qui se sont penchés sur le truc et qui ont trouvé des raccourcis mathématiques. Alors ce sont que des raccourcis et qui permettent de déterminer plus rapidement tout ce peigne de fréquences. Le problème, c'est que on va avoir une définition qui est moins précise. Et deuxième problème, qui n'est pas réellement un problème, c'est que le modèle mathématique ne fonctionne qu'avec des puissances de 2. C'est-à-dire qu'en clair, en règle générale, on va prendre, par exemple, 1024 échantillons. Et on va traiter 1024 échantillons, puisque 1024, c'est 2 puissance 10. Et on est obligé, dans les transformées rapides de Fourier, d'utiliser un nombre d'échantillons égal à une puissance de 2. Ça, c'est parce que c'est la méthode qui conduit à ça. Et donc, ces deux, ce qui va être utilisé dans les cartes son, ce sont des FFT. Donc, c'est pas des DFT, c'est des FFT. Et donc, et d'ailleurs, partout dans tous les systèmes numériques récents, c'est systématiquement des FFT qui vont être utilisés, et donc qui elles font appel au nombre complexe et aux matrices. Alors, inutile de vous dire que là, je suis noyé. Voilà, donc, et évidemment, aucune question n'a pour le moment été recensée dans les questions d'examen. Je ne pense pas que ça arrive, parce que sinon, là, c'est tout simplement impossible de... Enfin, pour moi, ça serait impossible d'y répondre. Et puis, je ne vois pas trop quelles questions ils peuvent poser, surtout, parce que ce sont des choses qui sont très, très, très complexes. Et de toute façon, c'est même pas demandé dans l'examen AREC, en plus. Voilà. Mais quand on parle ici de dans démodulation des signaux, voilà, est-ce qu'on parle de ces FFT? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que veut dire ici l'ANFR. Échantillonnage et quantification, je comprends bien. Voilà. Et conversion analogique digitale, on en a parlé aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour les transformées rapides de Fourier. On verra, mais dans le chapitre 11, on va aborder rapidement toute la logique du SDR et des nombres de bits de codage. Donc ça, c'est un peu pour rappeler ce que l'on va voir un peu plus tard, pour vous donner un peu de visualisation pour le futur. Les récepteurs modernes sont dotés d'un DSP. Donc DSP, ça veut dire digital signal processing, donc ça veut dire traitement numérique du signal. Et donc ce traitement, il a lieu soit au niveau audio, donc au niveau BF, dans les circuits audio fréquence, juste avant l'amplificateur audio qui envoie le signal au haut-parleur ou au casque, ça peut être aussi effectué au niveau de la fréquence intermédiaire. Et donc là, du coup, avant le démodulateur. Et du coup, le démodulateur est souvent un étage DSP, donc traitement numérique du signal, au lieu de passer par un étage classique, comme on va le voir après. Le nombre de bits de codage, donc c'est ici le nombre, ici la quantification. On voit bien que ce qu'on appelle la dynamique, c'est le rapport d'un tout petit signal, du plus petit signal par rapport au plus grand. Il est évident que plus ici on a une résolution importante, plus on va avoir une dynamique importante, puisque le plus petit signal va être encore plus petit si on a plus de pas de résolution. Voilà. Et donc, comme ici je suis en tension, à chaque fois que je rajoute ici un bit, donc un caractère 2D pour décoder, eh bien finalement, je rajoute un rapport de tension égal à 6 dB. C'est-à-dire que si j'ai 10 bits qui me permettent de déterminer la valeur d'une tension, si je passe à 11 bits, eh bien du coup, je rajoute 6 dB. 2 bits, 6 dB de dynamique par bit de codage, puisque j'ai divisé ma tension par 2. Si je rajoute un bit, c'est ça que concrètement je fais. Et enfin, pour terminer avec les SDR, et ça on va aussi en reparler quand on fera le chapitre 11, dans notre système, là, quand je suis là, pour savoir où j'en suis dans ma sinusoïde, est-ce que je suis au maximum, est-ce que je suis... où j'en suis dans ma sinusoïde, il faut que j'analyse tous les bits qu'il y a avant et après, pour savoir où j'en suis. Est-ce que je suis bien ici au maximum de ma sinusoïde, ou est-ce que ça va continuer à augmenter, ou voilà. Donc, pour comprendre ici où je suis précisément à ce moment-là, il faut que j'analyse ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Donc je perds un peu de temps de calcul pour cela. Et pour accélérer les calculs, en fait, j'ai une deuxième solution qui consiste à avoir deux séries. Une série ici en phase, donc ici je la mesure ici sur la phase. Alors j'aurais dû inverser d'ailleurs I et Q. Enfin bon, ici c'est ma phase Q que je lis. Et ici, c'est ma phase I. C'est-à-dire que ici, mon point que j'ai ici, il va être déterminé par un niveau ici en sinus et un deuxième niveau ici en cosinus. Et donc, c'est ça qui me génère mon fameux IQ. Donc, c'est mes deux séries de données. Et une fois que j'ai ça, je sais parfaitement où je suis, puisque mon point, je sais qu'il va tourner dans ce sens-là. Et donc, une fois que j'ai la valeur ici de Q, puisque normalement je n'ai que I, si ici je n'ai que I, quand j'ai en plus Q, je sais exactement où je suis, et donc je n'ai pas besoin de faire de calcul pour savoir ce qui s'est passé avant et ce qui va se passer après. Donc j'ai gagné un petit peu en temps de traitement. Et c'est pour ça que c'est souvent utilisé dans ces récepteurs SDR, c'est que du coup le traitement est beaucoup plus rapide et de ce fait ça monte plus haut en fréquence. Voilà. Donc on reviendra dessus si. Voilà. Mais encore une fois, pas de questions à l'examen, donc c'est pas la peine trop de vous bourrer la tête, mais que vous sachiez de quand on parle de IQ ce que ça veut dire. Alors, il y a aussi, et ça c'est au programme de l'examen AREC, des filtres numériques. Ces filtres numériques, alors ça c'est un truc assez tordu. En fait, ce sont des petits microcontrôleurs. Hein, donc, il y en a des tas maintenant qui sont disponibles. Et il y a des microcontrôleurs qui sont spécialisés. Donc, à l'entrée, on a un convertisseur analogique numérique, le petit filtre numérique, donc c'est un algorithme, et puis derrière en sortie un convertisseur numérique analogique. Pour chaque filtre numérique, on a besoin de trois éléments de base. Un retardateur, qui donc en fait c'est une pile de mémoire, donc c'est de la mémoire, on garde le chiffre et on le transpose de place en place dans la mémoire, on le fait avancer. On a une fonction de gain, donc c'est juste une fonction de multiplicateur. Donc on multiplie ce qu'il y a dans la mémoire par un chiffre, et ce chiffre-là, on le met dans un système de sommation qui est là. Voilà. Et comment. Et donc, on agence tout ça, ces trois éléments, les agences, pour réaliser des filtres. Comment ça va se passer? Et donc, on a du coup deux familles de filtres. Des filtres qu'on appelle à réponse impulsionnelle finie et des filtres à réponse impulsionnelle infinie. Donc, des FIR et des IIR. On va voir la différence entre les deux. Le FIR, c'est assez simple. Alors, c'est un filtre, alors je ne sais pas lequel filtre, peut-être un filtre passe-bas, un filtre passe-haut, peu importe. On a un filtre, un vrai filtre, et on met une impulsion à l'entrée du filtre, et on regarde ce qui en sort. Ok, donc je mets une impulsion, très brève, et en sortie, ça me donne ça. Ce qui veut dire que mon filtre va avoir ce type de réaction, quel que soit le signal que l'on va mettre à son entrée. Maintenant, Donc j'ai mesuré tous ces coefficients-là, et je vois que ça se déplace dans le temps. Donc ce qui va se déplacer dans le temps, c'est ma pile de mémoire qui va à chaque fois passer d'un registre à un autre, etc. Ça va bouger dans ce sens-là. Ici, je vais avoir mon coefficient de multiplication qui va reprendre ici la courbe. Donc ça, c'est mes différents coefficients que je vais avoir mis en mémoire. Et ma sommation, eh ben, c'est ma sommation. Pour chaque élément, je vais additionner. Et à la fin, je vais donc additionner ici tous mes éléments, puisque une fois que je vais être après en régime normal et avoir un filtre à imiter, eh bien je vais avoir différents niveaux. Et le final, alors je vais vous le mettre ici en plus. Ça semble compliqué, mais finalement c'est super simple. Donc c'est les différents ici, mes différentes formes de filtres, et après j'additionne. Et voici ici mon filtre reconstitué. Bon, évidemment, après, j'ai plus rien, donc il ne se passe plus rien. Mais voilà la manière dont j'ai reconstitué mon filtre. Et les émetteurs, alors ça, c'est donc les FIR, les émetteurs SDR, c'est tout simplement un convertisseur numérique analogique avec une série d'amplifications derrière. C'est tout ce que c'est. Donc, mais de toute façon, on reverra ça quand on fera le chapitre 11, quand on parlera de tous ces systèmes-là. Mais encore une fois, pas de questions à l'examen, donc on ne va pas trop insister. Je ne veux pas trop vous bourrer la tête. Donc ça, c'est le FIR qui est relativement simple. Voilà. Et puis, une fois qu'on a dit ça, on a des filtres qu'on appelle des filtres à ondes de surface qui vont fonctionner un petit peu de la même manière, mais sauf que la ligne Artar, ça va être un quartz. Tout simplement, puisqu'on a vu que dans le quartz, enfin, ou tout au moins une matière piézoélectrique, on a vu que dans le quartz, le courant se propageait de manière très 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 lente. Et donc, on va prendre cette propriété et faire en sorte qu'il y ait en plus des coefficients selon le retard plus ou moins qu'on souhaite donner. Et donc, ça, c'est ce qui va donner les filtres à ondes de surface. Donc, on va avoir un système mécanique, là, qui va finalement imiter ce que fait le FIR de manière numérique. Et donc, alors, en revanche, le problème, donc ça va imiter un filtre, par exemple un filtre passe-bas, mais ça va l'imiter pour une fréquence, et une seule fréquence. Typiquement, ça, alors là, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet, des 1-1-1. Voilà, par exemple, celui-là, il fait 137 mégas. En plus, il y a un amplificateur dedans, mais voilà. Et puis celui-là, je crois que c'est 1 giga. Voilà. Un filtre passe-bande de 1 giga, enfin 1090 mégas. Et donc là, le circuit, le filtre à ondes de surface, il est juste là, c'est cette petite puce-là. Qui, en fait, à l'intérieur, il y a un quartz. Taillé d'une certaine manière, mais il y a un quartz. Ou tout au moins une matière piézoélectrique, si ce n'est pas un quartz. Et donc là, il y a le schéma qui est là. Donc on va avoir les mêmes coefficients, les mêmes retards que dans un filtre numérique, un FIR. Les IIR, alors ceux-là, ils sont très tordus, c'est qu'en fait, on va avoir une rétroaction. C'est-à-dire que là, donc ça c'est un filtre FIR, tout va bien, mais celui-là, il est très tordu parce que l'entrée est là, et ça reboucle sur l'entrée. C'est-à-dire que le système, enfin avec sa programmation, va reboucler sur l'entrée. Donc typiquement, on va arriver à faire quelque chose comme, par exemple, un oscillateur. Et donc, c'est des systèmes qui sont assez tordus, mais voilà. Donc, c'est pas que des filtres, ça peut être aussi des montages particuliers. Et évidemment, après, faut pas se planter dans la programmation des coefficients qu'on met dedans, sinon le système a du mal à fonctionner. Voilà. Encore une fois, c'est au programme de l'examen AREC, mais ça n'a pas été retranscrit dans l'examen français. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Je ne sais pas. Voilà, quelques questions d'examen, mais vous allez voir que ça correspond essentiellement aux ampliopes, qu'il n'y a quasiment rien sur toute la dernière partie du programme. Est-ce que ça va arriver? Aucune idée. Donc, par exemple, là, le gain en tension, eh bien, on a 30 kg et 2 kilo ohms. Donc, on a un gain ici de moins 15, hein, 30 divisé par 2. Ici, la tension en sortie, donc j'ai 0,2 volts. J'ai ici 4700 ohms. Donc ici, j'ai un gain de 47, enfin de moins 47. Et donc, 0,2 multiplié par moins 47, ça me donne moins 9,4. Moins 9,4 volts. Hein, j'ai pas besoin de sortir ma calculette. Hein. Normalement, ça doit se faire 47 fois 0,2, peut-être que vous sortez la calculette, je ne sais pas. Enfin, moi, je ne le sors pas en tout cas. Et enfin, un circuit tordu, puisque ça, c'est un circuit, vous avez vu, ici, l'entrée est ici sur l'entrée positive, si bien qu'ici, ça, c'est un circuit non inverseur. Donc, le gain, c'est égal à la résistance de contre-réaction divisé par la résistance d'entrée, plus 1. Donc 4,7 plus 1, donc 5,7, et c'est positif. En plus, la manière dont c'est dessiné, c'est pas exactement comme je vous l'ai dessiné tout à l'heure. Donc c'est, c'est assez tordu, et heureusement que le candidat m'a envoyé un scan qui représentait le schéma, parce que sinon, à expliquer, pas facile. Voilà, mais ça, c'est typiquement, alors, les trois quarts des questions, même plus, portent sur ces schémas qui sont classiques, donc, avec le signal sur l'entrée négative. Et puis, la seule question que j'ai vue concernant les circuits logiques, voilà, c'était que représente ce circuit. Et en fait, ce circuit, ça représente ma fonction ou exclusif, mais avec des composants et ou. Quand je vous avais dit tout à l'heure, on revient en arrière, voilà. Ici, cette fonction, c'est non A et B ou A et non B. En fait, c'est concrètement, je mets plusieurs circuits l'un derrière l'autre, et c'est exactement ce qui m'est proposé ici. Alors, on va y retourner. Hop. Ici, donc c'est bien non A et B ou A et non B. Et donc ça, c'est une porte ou exclusif, qu'on appelle aussi pour les anglophones une porte XOR ou XOR, qui veut dire ou exclusif. D'ailleurs, au passage, moi j'aurais mis les mots en français, mais bon, peu importe. C'était peut-être le cas, mais en tout cas, ça m'a été remonté comme des mots, comme des mots en anglais. Voilà la réponse et bon, tout mon commentaire. On en arrive à la manip du vendredi soir. Je vais revenir sur ma webcam. Je vais vous montrer d'abord le circuit, enfin vous expliquer le circuit. Donc ce que j'ai fait là, là j'ai pris un ampli op, donc un 741, avec un montage ici avec deux résistances, 82 kΩ et 8200 ohms, enfin 8,2 kΩ. Ici, donc je mets mon plus et mon moins, et sur ma tension, sur mon entrée positive, ici, je mets une tension moyenne, donc entre les deux. Alors, la tension d'offset, dont on parlait tout à l'heure, en fait, c'est la tension qui va être générée ici en sortie. C'est-à-dire que si on met pas d'offset, eh bien, ça va avoir une tension, ça va être connecté à la tension plus. Alors, pas exactement à la tension plus, parce que le système, il a besoin d'un peu de tension pour fonctionner. Et inversement, quand ça va être basculé sur la tension négative, donc sur le 0 volt, on ne va pas avoir 0 volt, on va avoir 1 volt ou un tout petit peu plus, parce qu'encore une fois, le système a besoin d'un minimum de tension pour fonctionner. Mais si on met les tensions d'offset, et qu'on met la tension d'offset légèrement plus élevée que la tension ici de minimum de ma tension négative et inférieure à ma tension minimum aussi pour ma tension positive sur la deuxième entrée d'offset, eh bien on va régler précisément la tension qu'il y a en sortie. Là je m'en fous un petit peu, donc j'ai laissé les tensions d'offset se débrouiller comme elles veulent. Donc je vais vous présenter mon circuit, j'espère que tout va pas se casser la gueule. Ça commence. Donc, hop. Voilà. J'ai pas sorti mon tableau blanc. Erreur funeste. On va le sortir. Mettre tout dessus. En espérant que ça se casse pas la figure. Ma calculette, voilà, et mes feutres, hop, zou, voilà, j'ai tout, je vais pouvoir vous présenter ça à la webcam, alors, webcam, Full HD, voilà, là, voilà, alors, un petit coup de mise au point, parce que, évidemment, tout à l'heure, c'était très proche. On est en autre sens. Hop. Voilà. Hop. Pas trop. Alors, que je vous montre quand même le circuit, le 741, il est ici. Alors, il n'y a pas d'encoche sur mon circuit, il y a un point sur le mien. Ça dépend du constructeur. Hein. Le point, je ne sais pas si on le voit. On ne le voit pas. Si je fais ça. Non. Alors. Hop. Ah si, on le voit, le point. On voit le point. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous le montrer ? Il est ici. Voilà, on voit le point qui est là. Et donc ça, c'est mon point qui marque la patte numéro 1 de mon circuit intégré. Et on voit bien ici marqué 741. 741 qui est marqué là. Donc on reconnaît bien le circuit. Alors, je refais un peu plus haut. puisque je vais être obligé de rajouter mon voltmètre. Voilà. Alors si ça veut tenir. Voilà, impeccable. Le voltmètre, on va le ramener là. Alors, hop. Voilà. Et si je fais ça, ben voilà, ça va mieux. On va éteindre la lumière, ça va mieux. Mon montage, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, ça c'est parti, évidemment. La pile, elle est là. Donc ça, c'est pour alimenter ma pile. Ma pile, le moins, il est bien là. Hop. Elle est bien là. Et le plus est là. Alors, je mets mon voltmètre en route. Et ici, je prends... Allez. Voilà. Alors, première chose, alors que je retrouve mes petits, moi, que je retrouve mes petits, ouais, donc ça c'est ma contre-réaction. Donc là, ici, ça c'est ma sortie. Donc j'ai 8... Alors ma pile déjà, elle fait 9 volts, hein, donc il a perdu, grosso modo, la tension d'un transistor. Donc 0,7 volts. Donc là, je vais faire, ici je suis donc à la moitié à peu près, et lorsque je vais, hop, c'est-à-dire que lorsque la tension ici sur mon point milieu bascule, est inférieure à la tension qui est sur mes deux résistances ici, mes deux résistances de 15 kΩ qui sont là, lorsque la tension au milieu sur mon pont diviseur est inférieure à la tension que j'ai ici sur mon pont diviseur, enfin c'est sur mon potentiomètre, dans ce cas-là, ça va vers le zéro, puisque c'est faux ce que j'ai fait. Et si je passe au-dessus, ça devient vrai. Alors c'est hop là. Donc là, c'est très pointu. Hein, ça bouge, ça va basculer d'un seul coup. Parce que là, j'ai coupé la contre-réaction. Allez. Vas-y. Ça va d'un coup là. Allez, j'essaye de trouver l'endroit où ça bascule. Et donc je vais très doucement, voilà. Je vais très doucement pour bouger le... Ah ben il est long. Voilà, donc c'est pour vous montrer que c'est très très sensible. Hein, ça bascule d'un côté ou de l'autre. Et lorsque je boucle ici par ma résistance de contre-réaction, vous allez voir, l'effet est beaucoup plus... Déjà, il est revenu ici, puisque je suis à l'endroit où je bascule d'un côté ou de l'autre. Je suis revenu au milieu, en fait, hein. Puisque j'ai mis ma contre-réaction en route. Et dès que je bouge un petit peu, vous allez voir, ça bouge de chaque côté. Mais de manière plus sensible. Et évidemment, ça ne descend pas en dessous des 1,282 que j'avais vu tout à l'heure. Et ça ne va pas monter non plus au-dessus des 8,3 que j'avais vu tout à l'heure. Ouais, 8,2. D'accord ? Donc là, ce que je vais essayer de faire maintenant, alors si j'ai la place, parce que c'est pas évident, j'aurais dû prendre un bout de papier, ça serait plus simple, que je n'ai pas. Je vais essayer de faire en sorte de regarder comment ça évolue. C'est-à-dire que je vais mesurer ma tension en entrée et ma tension en sortie. Ma tension en entrée, elle est ici. Ça, c'est l'entrée de mon circuit. J'essaie de pas tout flinguer. Vous voyez, c'est ça qui bouge. C'est ça qui bouge avec le potentiomètre. Donc, par exemple, j'ai 3,90 V là. Quelle tension ça me fait en sortie ? Donc ma tension en sortie, elle est là. Ma tension en sortie, elle est de 8,18 V, c'est pas génial. J'ai été trop loin. Ouais, on va plutôt aller dans ce type-là, voilà. 7,20. Donc ça, c'est en sortie. En entrée, j'ai combien ? 7,18. Ouais, 7,18. 7,18. Et en entrée, j'ai combien ? En entrée, j'ai... C'est celle-là. J'ai 4,15. Là, je sens que c'est un petit peu trop éclairé. Alors, attends, je vais faire ça, et si je fais ça, ouais, c'est bien pareil, hein, j'ai l'impression. J'ai pas assez de contraste, c'est pas grave. Ensuite, je vais mettre une deuxième tension. Ici, je vais diminuer ma tension. Non, dans l'autre sens. Par exemple, 5,34. Quelle tension j'ai ici en entrée ? Allez, hop. Ici, 4,34. Et dernier point, ici je remets, je cherche une autre tension. Donc par exemple 2,85. Et la question c'est quelle tension je vais avoir ici en entrée. Donc je vois ici que entre mes deux là, donc j'ai 7,18 moins 5,34 on 7,18 moins 5,34, ça me donne ici moins 1,840, et dans ce sens là j'ai donc 4,34 divisé par moins, pardon, j'ai été trop vite, 4,34 moins 4,15 égale 1,9, non 0,19, et en l'occurrence c'est moins 0,19, donc je vois que j'ai un rapport ici, 1,840 divisé par 0,19 exé, ça me donne donc 9,68. Alors Ça ne me donne pas exactement 10, comme je pouvais m'y attendre, puisque j'ai pris 82 kOhm et 8,2 kOhm, parce que je pense que mes résistances, elles ne font pas les valeurs indiquées sur le code couleur. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas exactement le bon rapport. Puisque normalement, je devrais avoir un rapport de 10, là, en l'occurrence. Mais bon, du coup, ça ne fonctionne pas. Mais par contre, ici, entre mes deux résistances, entre mes deux valeurs, là, 5,34 moins 2, c'est 85. Donc je fais 5,34 moins 2,85. Exé, ça me donne donc moins 2,49. Et 2,49 que je divise par 9,68. 9,68. Ça me donne ici 0,26. Moins 0,26. Et on va mesurer donc 4,34 moins 0,26. Exé 4,08. Est-ce qu'on a bien 4,08 volts ici? Eh bien, c'est raté. Pourquoi? J'étais dans le mauvais sens. Je me suis fait piéger, j'ai mis moins alors que ça devait être plus. J'ai pas bien réfléchi. Là, c'était plus. Et donc, c'était plus ici. Et donc, je suppresse plus. Exé. Et là, ça me donne 4,6. 4,59. Donc, mon système fonctionne bien. Voilà. Donc, alors, c'est peut-être un peu compliqué comme démonstration, mais c'est pour vous montrer que les ampliopes, c'est quelque chose qui est très linéaire et facile à construire, quoi, sur tout ça. Et du coup, comme c'est facile à construire, ça coûte pas cher, et ben du coup, on en trouve partout. Voilà, ainsi se termine le cours de ce soir, se termine aussi cette deuxième partie sur les composants actifs. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour le début de la troisième partie de radioélectricité. Et donc, je vous souhaite à tous un très bon week-end, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.